C'est en écoutant l'autre matin l'ami Mathieu Vidard nous dire bonjour dans sa chronique au carré et nous parler de ses intonations au bonjour, de ses intentions, des recherches scientifiques qui montrent à quel point le mot bonjour en dit long, que je me suis mise à réfléchir sur ses multiples variations. Un petit peu comme l'expression je t'aime. Bonjour, c'est un mot qui veut tout et rien dire quand ce n'est pas une citation. Ce bonjour à la dame qu'on nous a appris à marteler depuis qu'on est tout petit. Bonjour, signe de salutation plus ou moins honnête. Il n'a pas toujours la bienveillance pour fonction. Parfois, on dit bonjour sans en penser la moitié, bonjour les dégâts. Parfois on dit bonjour en le pensant vraiment, signe de respect, de politesse, de courtoisie, mais il arrive que ce soit mal pris. À l'heure où l'on ne se regarde pas toujours, ça peut être un peu bizarre de s'entendre dire bonjour. Et puis, ce mot bonjour est un performatif, vous savez, c'est une action. Je vous souhaite que ce jour soit bon. Alors vous pourriez me rétorquer, je vous ai rien demandé. Bonjour l'ambiance, il manquerait plus que ce soit une injonction, qu'on soit forcé de passer une bonne journée. Non, je ne vous ai rien demandé, c'est pourtant pas compliqué, c'est simple comme bonjour.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, quand même, et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui s'interroge lui aussi sur le langage. Sans cesse, il est comédien, mais aussi, peut-être avant toute chose, c'est le lot de tous les comédiens, il est lecteur. Et sera à partir de mercredi jusqu'au 28 avril au Théâtre du Rond-Point pour partager les textes qu'il aime, en toute simplicité, sans chichi. Bonjour Pierre Arditi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Quand vous dites bonjour, oui. Vous, ça veut dire quoi?
En général, le bonjour, il a des intonations différentes selon que la personne en face de laquelle je me trouve est aimable au sens du 18e ou non. Ça peut contenir une humeur désagréable, je sais pas, moi quand le taxi ouvre pas la portière, il me dit, alors je dis bonjour, mais c'est beaucoup plus sec. C'est jamais anodin. Ça veut plus rien dire parce que c'est un bruit, c'est une musique d'ascenseur. C'est un bruit, alors qu'en réalité, c'est mon copain Jean-Claude Grimbert qui me dit ça. Je lui dis, parce que moi aussi ça m'échappe, je lui dis ça va, il me dit si tu commences par la question la plus difficile, c'est pas la peine de commencer la journée. Bon, donc évidemment, non, tout ça, hein, chaque mot...
Mais bonjour, faut-il le dire quand on ne le pense pas? C'est ça la vraie question.
Mais est-ce qu'on est obligé de penser quand on dit bonjour? Non, on peut en tout cas ressentir, voilà. Moi, chez moi, le sens du mot n'a pas beaucoup d'importance. C'est l'humeur qui est accolée, qui fait sens. J'ai salué des gens que je connais de près ou de loin dans la maison en arrivant ici, et qu'en général d'ailleurs j'estime. Donc le bonjour était simplement sous-entendait, tiens, ça me fait plaisir de vous voir. Voilà. Quelquefois. Je dis toujours bonjour, y compris à des gens que finalement je n'aimerais pas, parce que j'ai horreur qu'on ne me dise pas bonjour. Donc je n'applique pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on m'applique à moi-même.
Alors justement, Pierre Arditi, j'aimerais, pour nous mettre en situation, que vous nous lisiez le premier texte que vous avez choisi. C'est un texte de Philippe Delerme, extrait de son recueil « Je vais passer pour un vieux con ». Ça s'appelle « Tout d'abord, bonjour ».
Tout d'abord, bonjour. On croyait avoir pris toutes les précautions d'usage pour s'adresser aux vendeurs dans ce grand magasin à vocation essentiellement culturelle. Et accroupi devant un rayonnage de CD, il vous tournait le dos. Vous a-t-il vu venir? On n'en jurerait pas, mais on pense que oui. On pousse la mauvaise foi jusqu'à être sûr qu'il a accentué sa concentration rangeuse au moment où il a senti que vous vous approchiez. Votre... excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais voulu... Était-il à ce point bredouillé que la première partie s'en est perdue, peut-être avalée par le fond sonore diffusé dans l'espace ouaté? Enfin, toujours est-il que sa surprise affectée, son coup de tête dubitatif dans votre direction, porte déjà toutes les marques du reproche. Ainsi, vraiment, il n'y avait pas un autre vendeur disponible en position verticale, lui, quelqu'un que l'on n'eût pas offensé en l'arrachant à une posture physique servile et humiliante? Son redressement pour venir à votre hauteur traduit déjà dans sa lenteur la mauvaise grâce provoquée par cet outrage, mais quand les mots viennent à ses lèvres, c'est bien pire. L'hostilité amassée en quelques secondes par cette situation infiniment reproductible, mais dont il joue la singularité avec un indéniable talent, prend alors cette forme redoutable. Tout d'abord, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah oui, vous êtes sans doute en faute aussi par absence de bonjour. Encore qu'à la réflexion, vous ne soyez pas persuadé de cette mufflerie, mais, enfin troublé, presque déjà repentant, vous êtes désormais en position d'infériorité. Oui, tout d'abord bonjour, je suis un homme comme vous. Le rangement à croupeton est une des tâches qui me sont assignées, mais je pourrais vous donner des leçons sur les exigences de la civilité. Le pire est que le conseiller ressource clientèle, car c'est à lui que l'on s'adresse à présent, et c'est vrai qu'on le considérait davantage comme un simple vendeur, alors qu'il était à nos pieds, peut devenir d'une amabilité parfaitement insultante, puisqu'elle souligne moins la compétence professionnelle de ses indications qu'une qualité d'âme dont vous resterez dépourvu. Étrange scène qui finit tout miel tout sucre avec de votre part, merci beaucoup monsieur, des plus soufflés, qui ne remplacera jamais l'impossible et désespérément nécessaire, je vous promets, je ne vous prenais pas pour un esclave.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte ?
Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que c'est... Comme toujours chez Delerme, c'est très finement observé. Alors on voit bien le magasin auquel il fait allusion, mais c'est pas spécifique à ce magasin-là. Quoi. Il y a souvent, moi, j'ai remarqué que dans ce genre de lieu où effectivement on dispense de la culture, le vendeur n'est pas un vendeur. C'est quelque chose, c'est quelqu'un d'autre. C'est un être humain. C'est quelqu'un qui a une connaissance et qui ne peut donc pas être abordé d'une manière absolument anodine ou quotidienne.
Tous voilà. Les vendeurs sont des êtres humains, bien dit.
Mais naturellement, c'est exactement ce que je pense. Donc, il y a un côté comme ça, oui, alors, de temps en temps, on a un peu l'impression de les déranger. De temps en temps, pas toujours, moi, il m'arrive beaucoup, et toujours d'ailleurs, d'aller dans ce fameux magasin, cet ensemble, je sais plus comment on doit appeler, puis je veux pas faire de publicité, mais enfin, tout le monde aura reconnu, et j'espère bien qu'il ne s'éteindra jamais.
Qu'est-ce que ça veut dire rester poli, pour vous? Parce qu'il s'agit de cela, ici, de politesse, de courtoisie.
Je sais pas, la politesse, je sais pas. Ça me semble toujours être un mot un peu... C'est un mot qui m'énerve. Je connais des gens qui ont l'apparence de la politesse, qui emploient des mots qui apparemment seraient polis, et qui sont d'une vulgarité et d'une suffisance que rien n'égale. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Être poli, c'est simplement avoir un regard bienveillant sur l'autre, lui dire bonjour aimablement, lui demander un renseignement sans le prendre pour un chien, éventuellement entamer une conversation si tout d'un coup... Ça m'est arrivé il y a pas longtemps à Lyon, tiens, dans le fameux magasin en question, où les gens ont été absolument délicieux et charmants. Je serais resté des heures avec eux tellement ils étaient pas polis, ils étaient humains. C'était largement suffisant.
Parce que finalement, c'est bien un texte sur la courtoisie, sur la politesse, sur l'éducation que vous avez choisi, au risque de passer pour un vieux con, reprendre le titre du recueil de Philippe Delerme.
Oui, mais je l'ai enregistré, tout le livre.
Est-ce que vous diriez que ce sont des valeurs qui se perdent ?
Quoi ?
La courtoisie, la politesse ?
Oh, c'est... Est-ce que ce sont des valeurs ? Oui, c'est une valeur, bien sûr. Est-ce que ça se perd ? C'est momentanément enfoui sous des couches d'inculture, d'incivilité et surtout d'inattention. C'est surtout ça. Je veux dire que moi, je suis un vieux con. J'ai l'âge de l'être et j'ai dû l'être. Ça doit faire très longtemps que je le suis. Un vieux con. Ça m'effare toujours. Par exemple, c'est des conneries, mais. Quand quelqu'un, un garçon de café, ou un garçon dans un restaurant, ou une femme, enfin peu importe, attend la commande et que les gens sont en train de parler entre eux, ils font comme si cette personne qui est un être humain, effectivement, est en attente et que ça n'a aucune espèce d'importance, il n'a qu'à continuer d'attendre le temps qu'on ait décidé de lui adresser la parole. Ça m'exaspère. Quand mes proches, par exemple, quelquefois, y compris les enfants, font ça, je rentre dans une colère noire. Parce qu'il y a... C'est quelqu'un qui travaille, il est dans une... Bon, il effectue un service qu'on lui demande. Et ben, dans ces cas-là, le minimum du minimum, c'est de tenir compte de sa présence. C'est ça qui m'emmerde le plus. Il y a une sorte de... On crée des générations de gens inattentifs. C'est pour ça que je suis un vieux con, d'ailleurs. Mais Fellini l'avait dit avant moi. Il avait dit, la télévision, c'est un danger terrible, ça va créer des générations de gens inattentifs, puis au bout d'un moment, ils vont se réveiller, ils descendront dans la rue avec des panneaux, et ils lèveront le poing et diront « cinéma, cinéma, cinéma ». C'est resté gravé pour toujours.
Moi, je connais une qui n'a aucune éducation dans cette émission, cher Pierre, et qui pourrait bien en prendre de la graine de ce que vous dites de cette conversation. C'est la culture et son actualité mal élevée, mal embouchée, même pas propre. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 2 avril ? À la Belle Étoile, samedi soir à Garnier, Marie-Agnès Gillot a fait ses adieux à la scène de l'Opéra National de Paris. À 42 ans, la danseuse étoile nommée en 2004 avec Cygne prend sa retraite comme le veut le règlement de l'institution. Elle interprétait Orphée et Eurydice, créé en 1975 par Pina Bausch sur la musique de Gluck. Avant de recevoir 20 minutes de standing ovation dont Marie-Agnès Gillot a profité en compagnie de son fils Paul et de sa chienne Goldie, ça, c'est que chi.
Martin Scorsese.
Thank you, everybody.
Scorsese royal à Cannes, l'immense réalisateur américain revient sur la croisette en carrosse d'or. Un peu plus de 40 ans après sa palme d'or avec Taxi Driver, Scorsese recevra la prestigieuse récompense nommée en hommage au film de Jean Renoir et décernée par la Société française des réalisateurs de films pour l'occasion d'une projection de Mean Streets révélée à la quinzaine des réalisateurs en 1974, suivie d'une conversation avec le maître, sera organisée le 9 mai. Yeah. Ténor dans l'âme, Michel Sénéchal s'est éteint hier, il avait 91 ans. Immense défenseur du chant lyrique français, il avait commencé sa carrière dans les années 50, repéré grâce à ses talents de comédien et son agilité vocale. Inoubliable Ménélas dans La Belle Hélène d'Offenbach, habitué de l'opéra de Paris, de l'opéra comique. Sénéchal restera aussi comme le créateur de l'association L'Art du chant français pour le rayonnement de celui-ci à l'international. Ciao, maestro.
Alors la première page, c'était des animaux ou des choses. Il y a des bateaux qui sont bizarres. Moi, j'aime bien.
Plusieurs centaines d'enfants de 6 à 15 ans de près de 83 écoles d'Italie et d'ailleurs ont décerné les prix Strega Ragazze et Ragazzi, genre de concours jeunesse à l'italienne organisé par la foire de Bologne qui vient de se terminer. Résultat, dans la catégorie 6 ans et plus, les bambins ont choisi de récompenser l'ouvrage Hachiko Il cane che aspettava de Luis Prats Martinez, tandis que pour les 11 ans et plus, c'est l'Ultime Faro de l'écrivaine Paola Zanoer qui a été sacré Bravissimo le coco. Vous l'avez remarqué, c'est une langue que je ne maîtrise pas.
Oui, l'italien. J'ai remarqué.
Tiens, invité de Boomerang ce matin. À partir de mercredi, je le disais, vous serez sur scène pour lire les textes de votre choix. D'abord de Jean-Michel Ribes, puis de Yasmina Reza et enfin de Michel Onfray et de Philippe Delerme. Ce goût de la lecture à voix haute, quand est-ce qu'il est né?
Il est né en écoutant ma tante Denise.
À Londres.
Oui, la tante Denise, la capitale. D'ailleurs, c'est une des raisons pour j'ai décidé de redevenir un peu tante Denise à mon tour, qui nous lisait à ma sœur et à moi-même, et en général des romans populaires. On était petits, on était chacun d'un côté, à droite et à gauche, d'elle dans le lit, et à voix haute, elle nous lisait des aventures. Entre autres, d'un auteur, d'un héros que vous ne connaissez pas, qui s'appelle Cigale, et qui était écrit par un autre romancier populaire qui s'appelait Paul Divoix. Et bah non, ça vous je vois dans votre œil un vide sidéral.
Bah, oui, mais je vois bien. La passion qui vous anime.
Oui,
j'ai envie
mais
de le lire.
C'était magnifique parce que sa voix, je ne sais plus, au fond, elle n'était pas actrice du tout, mais elle incarnait ce qu'elle disait et. C'est resté totalement gravé dans ma mémoire, et pour toujours, parce que ça nous faisait voyager dans le lit contre son corps. C'était c'était un mélange de douceur, c'est une petite Madeleine de Proust, quoi. De douceur de sa peau, qui était douce, je me souviens ça. C'était il y a 55 ans, hein.
Quelle était votre relation exacte avec la tante Denise?
La tante Denise était sans doute l'une des causes de mes premiers émois, probablement, sans qu'elle l'ait jamais su, mais de mes émois aussi littéraires. Et curieusement, d'ailleurs, après, j'ai racheté ces bouquins qui sont un peu comme les collections Jules Verne, Hetzel, avec des plats absolument magnifiques. Et je me souviens d'un moment où le héros est pris dans une tempête, dans un canot qui menace de se renverser, et feuilletant ses livres des dizaines d'années plus tard, je tombe sur la gravure, qui est très jolie d'ailleurs, et qui représente le passage qu'elle nous lisait. Et la gravure, la vague, c'est une vaguelette, et le canot, c'est un petit canot comme ça. Donc au fond, c'est la voix de ma tante qui fabriquait elle-même cette tempête et ce canot. Et ça... pour toujours, c'est resté gravé en moi parce que c'est cette voix et cette simple voix qui m'a donné des ailes, qui m'a fait sortir de ce lit qui semblait être le nôtre pour aller dans des espaces qu'elle-même ignorait mais qu'elle créait et qu'elle nous a donné pour l'éternité. C'est magnifique d'ailleurs. Et ça me fait penser à la réflexion d'un poète qui était un petit garçon sortant d'une projection de Tintin et des oranges d'or, je crois, quelque chose comme ça. Et on a dit à ce petit garçon, alors, ça t'a plu? Il dit, oh non, ça m'a pas plu, non. Ah bon, pourquoi ça t'a pas plu? Parce que dans le film, le capitaine Haddock, il a pas la même voix que dans les albums. Voilà. Eh bien, c'est la réponse d'un poète, et c'est ma tante Denise a exactement fait la même chose. C'est-à-dire que pour toujours, elle a mis la voix de Cigale dans sa bouche, et pour moi, Cigale, c'est ma tante Denise.
Il est question, lorsqu'on vous écoute, Pierre Arditi, de ce plaisir de dire les mots. Et j'ai envie de vous entendre parler d'un mot, tiens. D'un mot qui pourrait être le mot artichaut. Il se trouve que Jean-Michel Ribe a son avis sur la question. Il lui a consacré une entrée dans son livre qui s'appelle Les mots que j'aime et quelques autres. Pierre, c'est à vous.
L'artichaut, ah oui, j'aime l'artichaut, j'aime son nom, son goût, ses feuilles, son cœur, sa forme, sa couleur. Je l'aime cru, je l'aime cuit. S'il fallait tout recommencer, je vivrais avec un artichaut. Je l'emporterais partout, au Mont-Saint-Michel, en Grèce, en Jordanie. Je lui apprendrais à nager, à jouer au tennis. Je lui ferais découvrir Fellini, Goethe, Chopin, Picasso. Je le présenterais au ministre de la Culture, au maire de Thuringar, à des amis stripteaseux. Je lui dirais qu'il n'y a pas de vie après la mort et qu'il vaut mieux, pour son cœur, monter à pied les escaliers que de prendre l'ascenseur. Je le ferai voter, danser, dîner avec des intellectuels musclés et des sportifs pensants. S'il le souhaite, il pourra faire la sieste, fumer, apprendre l'anglais, regarder des photos de femmes ou d'hommes nus, rentrer tard le soir. Je lui dirai des proverbes, comme par exemple « tel père, tel fils » ou encore « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ». Je lui ferai aimer les hannetons, l'aigle royal et les députés des Vosges. Mon oncle lui fera gravir l'Himalaya. Ma sœur lui apprendra à se servir d'une lime à ongles. Mon cousin essaiera de le convertir au catholicisme, mais n'y parviendra pas. Je lui ferai comprendre combien la tolérance est une vertu cardinale et comment on peut supporter le froid sans être bardé de vêtements chauds, mais simplement en se concentrant. Enfin, je lui répéterai tous les jours, pour qu'il ne soit pas effrayé par l'amour que je lui porte, que la vie est incompréhensible et que c'est la raison pour laquelle je vais le manger.
Se peut-il, Pierre Arditi, qu'un texte à l'instar d'un mets ce soit quelque chose qui se mange?
Ah ben bien sûr, si ça se mange pas, faut pas lire. Bien sûr, faut incarner, mais faut goûter, il faut broyer, il faut déchiqueter,
au risque de se rendre malade.
Mais non, pas au risque, au bonheur de se rendre malade. Lire, c'est une ivresse. On n'est pas dans un ordre où tout d'un coup plus rien n'aurait cours, il faudrait avoir un parapluie bien enfoncé là où il ne faut pas. Non, la lecture, c'est comme la vie. C'est inné. Il faut d'ailleurs, la lecture, c'est comme la vie, et c'est pas comme la caisse d'épargne. Si vous l'économisez, on vous sert pas d'intérêt à la sortie. Donc il faut bouffer la vie, il faut bouffer la lecture, il faut s'amuser avec ça, il faut s'envoler, il faut être tante Denise, hein, voilà. Bon, bah, c'est ce que je vais essayer de faire. Je n'ai pas la même voix. Et puis il faut bien se dire qu'en tout cas pour moi la lecture, ça a été mon premier bonheur d'enfant, mais c'est surtout l'essence même de mon métier, car mon métier, je ne suis qu'un homme qui tente de parler à d'autres hommes, entendez, hommes-femmes bien entendu.
À ceux qui ne seraient pas d'accord, Pierre Arditi, vous savez ce qu'on leur dit? On leur dit tant pis pour vous.
Mais oui.
Tant pis pour vous, tant pis pour moi. Comme le chantait Gréco en 65, vous êtes sur France Inter avec Pierre Arditi, vous écoutez Boomerang et vous avez raison d'avoir les yeux plus gros que le ventre.
Tant pis pour moi, je jouerai le jeu si je me brûle un peu. À cette flamme qui s'allume dans le fond de tes yeux. Je sais trop bien que c'est dangereux. Jouerai le jeu si mon cœur flambe et tombe en cendres quand tu me diras adieu. Il n'y a pas d'amour sans feu, il n'y a pas d'amour sans feu. La flamme tourne, la flamme danse.
et brûle ce qu'elle peut. Tant pis pour toi. Si c'est dangereux, tu devras jouer le jeu. Si ton cœur flambe et tombe ensemble, quand je te dirai adieu, il n'y a pas d'amour sans feu, il n'y a pas d'amour sans feu.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Comment le décrire ce matin? Ça, c'est une vraie question. S'il n'était pas comédien, il aurait bien pu être cuistot, tiens. Croyez-le ou non, j'ai rarement vu une tête aussi bien faite pour porter la toque. Et si c'était que ça, avec ses narines frémissantes, à la ratatouille, son poignet robuste qui manie aussi bien la cuillère en bois que le fouet ou la pâte à pain, son regard intransigeant, soucieux du moindre détail, et son palais. Pourtant, il n'est pas venu en tablier ce matin, loin de là, il est venu tout en noir. Pierre Arditi, invité de Boomerang, pour un cycle de lecture au Théâtre du Rond-Point, un lieu que vous connaissez bien pour y avoir joué à plusieurs reprises. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, le théâtre, la scène de théâtre?
C'est ma maison. Et c'est ma vie. Voilà. J'ai pas rien d'autre à répondre. On me dit toujours, mais tu n'arrêtes jamais. Mais si, je vais arrêter quand je serai mort.
La première fois que vous y êtes entré, c'était quand? C'était où?
Au théâtre? Au Théâtre du Rond-Point, vous voulez dire?
Sur une scène de théâtre.
Sur une scène de théâtre, bah, j'avais 7 ans. Et c'était... ou 8 ans, enfin. J'ai joué Pierre et le Loup. Prokofiev, la fête d'école, la fête de fin d'année de l'école.
Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Ben, j'ai ressenti un trac, alors là, pour le coup, terrifiant. Je ne tenais pas sur mes jambes, mais visiblement, ça ne se voyait pas. Je ne parlais pas, hein. Il y avait la musique, on s'était mimé, au fond. C'est un spectacle d'enfant. Ça a été fait par un professeur qui a beaucoup compté pour moi, enfin un maître, ça s'appelait comme ça. Un instituteur qui s'appelait Monsieur Berthoud, qui avait décelé déjà chez moi quelque chose d'un peu différent. Donc il m'a identifié, au fond, déjà à cet âge-là. C'est pour ça que je n'ai jamais oublié le regard de cet homme sur moi. Et puis, ça a été un choc parce que j'avais peur. Et ensuite, j'ai été réconforté par la chaleur de mon père et de ma mère, qui, à cette époque-là, étaient vivants, bien entendu.
Est-ce que vous diriez que c'est grâce à votre mère et à votre père, d'ailleurs, que vous êtes là aujourd'hui, que vous faites ce métier aussi?
Mon père a fait l'acteur, ma mère a fait l'homme. Donc, je leur dois tout ça. Mais, vous savez, oui, c'est évidemment grâce à eux, j'ai eu la chance d'avoir des parents, mais vraiment des vrais parents. C'est qui est, à mon sens, un des drames de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est que souvent, ces enfants égarés, qu'on voit s'égarer d'une manière parfois terrible, ont un manque fondamental, c'est qu'ils n'ont souvent pas de père ou pas de mère, et quand ils en ont, ces pères et ces mères ne travaillent pas, ils sont totalement débordés et impuissants face à la demande de ces enfants perdus.
Quel genre d'homme est-ce que c'était, votre père?
Mon père, c'est un phare. Il était beau, il était très intelligent, il était peintre, très beau peintre. Il était associé à la famille Canetti, puisque c'est ma famille directe, qui avait donc les trois Baudets, j'ai vu débuter, hein. Brel, Béart, Gainsbourg, je me souviens d'eux comme si c'était hier.
C'est quelque chose quand même.
C'est génial. J'ai eu envie, au fond, de monter sur ce petit promontoire qu'on appelle une scène en voyant ces gens-là, non pas jouer la comédie, mais chanter. Et puis après, j'ai eu ça avec Robert Hirsch, c'est ça. Mais, donc je suis tombé dedans tout petit, mais mon père nous a, ma sœur et moi, illuminer l'existence avant l'heure. Et donc, je m'en sers encore aujourd'hui.
C'est un texte bouleversant et magnifique sur le père, justement, que vous avez choisi de nous lire ce matin. Un texte de Cosmos, de Michel Onfray. On vous écoute.
Mon père est mort dans mes bras, 20 minutes après le début de la nuit de l'Avent, debout comme un chêne foudroyé qui, frappé par le destin, l'aurait accepté, mais tout en refusant de tomber. Je l'ai pris dans mes bras, déraciné de la terre qu'il avait soudainement quittée, porté comme aîné porta son père en quittant Troie. Ensuite je l'ai assis le long d'un mur, et puis quand il fut clair qu'il ne reviendrait pas, je l'ai allongé de toute sa longueur sur le sol, comme pour l'aliter dans le néant qu'il semble avoir rejoint, sans s'en apercevoir. En quelques secondes, j'avais perdu mon père. ce que j'avais si souvent craint était arrivé en ma présence. Je ne suis jamais parti donner des conférences en Australie ou en Inde, au Japon ou aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Afrique noire, sans penser au fait qu'il aurait pu mourir pendant mon absence. Je songeais alors avec effroi qu'il m'aurait fallu faire un long retour en avion vers lui, en le sachant mort. Or, il mourait, là, avec moi, dans mes bras, seul à seul. Il profitait de ma présence pour quitter le monde en me le laissant. Longtemps vieux garçon, mon père le fut tardivement, à l'âge de 38 ans. Quand j'avais 10 ans, il en avait donc 48, 58 quand j'en avais 20, autant dire, dans le regard des enfants et des adolescents de mon âge, un vieux monsieur qu'en pension mes congénères prenaient parfois pour mon grand-père. Souscrire à ce regard des autres, qui en faisait mon grand-père et non mon père, c'était le trahir. N'y pas souscrire, c'était être un fils de vieux, comme le disent les enfants, qui évoluent dans la cruauté tel un piranha dans l'eau. Avoir un père âgé oblige jeune à faire face à la méchanceté de ses semblables. Plus tard, on comprend que ce fut une chance, un cadeau. On découvre alors qu'on a un père sage, posé, calme, serein. Débarrassé des afféteries des jeunes années, ayant assez vécu pour n'être plus dupe des miroirs aux alouettes, clignotant partout dans la société, je suis devenu le fils de mon père, quand j'ai compris qu'il vivait sa vie sans se soucier de correspondre aux modes qui voulaient alors des pères modernes, des pères habillés avec les mêmes vêtements que ceux de leurs enfants, shorts ou baskets, chemises bariolées ou tenues de sport, des pères parlant la même langue, relâchés qu'eux, des pères copains, complices et rigolards, des pères potes, des pères avachis, des pères enfants ou adolescents, des pères pas finis. Ma chance fut d'avoir eu un père comme ils existaient avant qu'ils ne deviennent les enfants de leurs enfants. Eh oui, c'est magnifique. J'ai choisi ça parce que, ça, d'une certaine manière, ça parle du mien. Le mien, évidemment, n'était pas un homme de la terre, n'était pas un rural. Et le père d'Onfray était un taiseux, et mon père à moi était un harlequin. Peu importe. C'est exactement ce que je crois. Je n'ai jamais demandé à mon père d'être mon pote. J'ai toujours demandé à mon père d'être mon père. C'est ça qui me bouleverse le plus.
Et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, Pierre Arditi, que vous étiez le fils de votre père? Parce que c'est ça que dit le texte aussi.
Mon père a été mon père dès que j'ai été capable de l'identifier, c'est-à-dire petit garçon. Parce qu'il a été mon premier héros. Il a été le premier héros de ma vie. J'aimais son visage, j'aimais sa manière de parler. Je me perdais dans ces tableaux que, enfant, je ne pouvais pas approcher. Il dit « Non, ne t'approche pas, moi !» Alors je regardais, je lui posais des questions stupides. Pourquoi il fait ça, lui? Pourquoi il y a la campagne dans le tableau? Pourquoi? Et il me dit « Oui, parce que... » Voilà, bon. Et puis, il m'a appris à me balader dans ce qu'il peignait, sans m'en expliquer le sens, et il était un peu... Reprenez cette phrase de Degas, la peinture dans la peinture, il n'y a rien à comprendre, c'est comme la merde, ça se sent. Bon, je ne suis pas totalement opposé à cette définition, et puis, à un moment donné, mon père était l'homme que j'aurais voulu être. Avec le temps, il s'est transformé, il est devenu différent. Je m'en suis éloigné parfois et je m'en suis rapproché. Pour finir, il a fini Elles aimaient rien, et à cet instant-là, curieusement et dans l'adversité et dans cette maladie terrible, eh bien, je ne me suis jamais senti plus son fils qu'à cet instant-là.
Merci infiniment, Pierre Arditi. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Pierre Arditi lit ce qu'il aime, c'est à partir de mercredi jusqu'au 28 avril au Théâtre du Rond-Point, que vous êtes toujours aussi à l'affiche de Quelque part dans cette vie avec Emmanuel Devos au Théâtre Édouard VII.
Oui.
Et que bientôt, en septembre, il y aura le Tartuffe, tout de suite.
Oui, les avec médias. Weber et monté par Peter Stein.
Tout de suite, ouais. Les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Today is the day I ask myself. Today is the day, Heels sur France Inter. Et tout de suite, c'est Sonia de Villers-les-Médias, l'instant M, parce qu'elle le vaut bien.